Alors on est au 10e chapitre, on prend la 5e Mishnah. Et on est toujours sur la halakhot du Kezel, la halakhot du vol. Donc on a bientôt fini le 10e chapitre, puisque le 10e chapitre a 10 Mishnayot. Et donc avec ça on aura fini toute la Maseret Baba Kama. Je pense qu'on fera la semaine prochaine. Si quelqu'un veut organiser la semaine prochaine, messieurs, voilà, je préfère vous prévenir. Je pense qu'on aura fini lundi prochain. Si lundi prochain, il y a quelqu'un qui va offrir le petit déjeuner et Elou Nishmat, enfin, c'est un grand mérite parce que on va finir la Maseret Baba Kama. C'est un sioum, c'est une occasion de faire un kalish particulier. Voilà.
Je prends.
Ah, qui a pris
on a deux.
Ok, alors ils sont deux, voilà. Alors combien vous êtes? Il y en a trois, alors vous êtes trois. Monsieur Cohen, voilà, Khazak. Bon, donc, lundi prochain, non mais qui c'est qui fait d'air? Qui c'est qui fait d'air? Non, quelque chose de simple, n'allez pas. Un petit déjeuner amélioré, c'est tout. D'accord, alors. Donc vous deux, allez, Khazak. Bon, donc je vous laisse, hein, vous deux, voilà. Lundi prochain, Bezrat Hashem. Alors, Mishnahé, 5e Mishnah. Yaakov, tu viens la semaine prochaine. Hein.
Amen, amen.
Agozel Sade Mechavero. Celui qui vole un champ de son ami. Alors écoutez le cas qu'on va parler aujourd'hui. Le cas de cette Mishnah, j'ai envie de l'appeler l'arroseur arrosé. Vous connaissez l'arroseur arrosé?
On est très bien. Hein?
Alors c'est un peu le cas de cette Mishnah. C'est le voleur qui va être volé. Donc, Agozel Sade Mechavero. Celui qui a volé un champ de son ami, donc il l'a fait en tant que bon voleur, etc. Il kiffe tranquille. Untalua Mesikim. Et par derrière, il y a des autres voleurs qui étaient plus forts que lui. Donc par exemple, c'est le gouvernement, ou enfin je sais pas, d'accord? D'autres voleurs meilleurs que lui.
La mafia.
Ou la mafia. À l'époque, le gouvernement, c'était des voleurs.
Ça n'a pas changé.
Donc il y a des voleurs qui étaient plus forts que lui, qu'on appelait les anassim. C'est quoi les anassim? Dans le mot anassim, on a le mot ones. Ones en hébreu, ça veut dire quoi? Force majeure. Ça veut dire que quand ces gens-là, ils arrivaient, on se dit, ah, ça y est, c'est force majeure, on peut rien faire. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, d'accord, donc j'ai Monsieur Reuven qui m'a volé mon champ. Ensuite, Monsieur Reuven s'est fait voler. Et moi, entre-temps, je découvre, j'ai réussi à... Moi, entre-temps, mon champ s'est fait voler. Alors, bon, soit c'est un champ, j'attends la question, comment on peut se faire voler un champ?
D'accord. Récolte,
bah oui, ah non.
Récolte du champ. Non mais si le roi vient...
J'ai pas réveillé ce matin. Hein. Comment on peut se faire voler un champ?
C'est le gouverneur, un truc comme ça, il te prend ton champ.
Hein? Titre de propriété.
Non, je m'installe dessus, moi.
Comment vous comprenez vendre, comment vous comprenez voler un terrain?
Non mais à l'époque...
Alors écoutez bien comment, oui, pardon?
Le seigneur est né et il est récupéré.
Non, écoutez bien. Écoutez bien comment Rambam explique cette Mishnah, comment Maïmonide explique cette Mishnah. Il dit que un terrain, donc de l'immobilier, la différence d'immobilier, ça peut pas se voler. Parce que où tu veux l'amener? Ça bouge pas, c'est ici. Il explique que de quoi on parle ici? On parle d'une personne qui s'est fait passer pour le propriétaire et qui a vendu le terrain. D'accord? Et donc il vend le terrain avec titre de propriété, hein, c'est ça monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc il se fait passer pour le propriétaire, il va vendre le terrain, d'accord? Il vend le terrain, et après le propriétaire arrive, il voit quelqu'un dans son champ, Azak, pour le mérite de David Ben, David Ben Amou. Je le sers vous, Bechavod. Alors, donc il se fait voler, l'autre il vend le terrain, et il prend l'argent. Après moi j'arrive dans mon champ, je vois quelqu'un, je dis qu'est-ce que vous faites là, il dit moi j'ai acheté le champ, qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Bon. Alors maintenant c'est quoi le problème? C'est que cet argent là, que le voleur a récupéré, le voleur lui-même s'est fait voler cet argent. Donc, comme j'ai dit, l'arroseur arrosé. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi qui ai été volé, je vais voir le voleur, je dis, écoute, tu sais quoi ça? Tu vends mon champ, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu crois où ici? D'accord? De quel droit? Alors, lui, il dit, écoute, moi ton champ, je l'ai plus. L'argent, je l'ai plus, il faut aller voir les autres voleurs, les voleurs suivants. C'est ça le problème. Et des fois, il peut avoir des chaînes comme ça. Le voleur qui ont volé, il dit, écoute, à moi, l'argent n'est plus chez moi, il est chez l'autre voleur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Il faut sortir Winchester.
Ah bah tu vas voir l'autre voleur.
Ah oui, moi je connais pas l'autre voleur, moi je te connais à toi. C'est toi qui as vendu mon champ.
Non, mais ils ont fait mais l'argent est là-bas. C'est pas le propriétaire qui va voir le voleur.
Bien sûr.
C'est celui qui a acheté.
Non, c'est le propriétaire qui va voir.
Pourquoi? Parce que c'est validé cette vente?
Non, lui dit, vas-y, il dit, écoute, moi je veux bien, ça me dérange pas à la limite, merci. Ça me dérange pas à la limite de vendre le champ, mais donne-moi l'argent. Pourquoi tu te prends? Ou tu me donnes l'argent à moi, ou tu rends l'argent à l'autre. Parce que là, on a un client ici qui est honnête.
Mais alors, parce qu'il est honnête, il a acquis le champ.
Il veut pas garder le bien.
Non, soit l'un, soit l'autre.
C'est des faux papiers, pourquoi tu veux qu'il vende? Bah oui, c'est ça. C'est pas le propriétaire qui devrait aller voir le voleur.
Donc cet argent... cet argent de deux choses l'une.
Il va falloir récupérer.
D'accord ? Soit on rend l'argent à l'acheteur, soit on donne l'argent au propriétaire et le propriétaire donne le champ.
Pourquoi tu rends l'argent à l'acheteur, au propriétaire ?
Oui, parce que peut-être le propriétaire dit je veux bien le vendre.
Mais s'il veut pas le vendre, tu veux donner l'argent ?
Parce que ce que tu comprends pas, c'est que.
L'acquéreur,
il est de bonne foi. Là, tel que je te présente, ça s'est passé rapidement. Mais en vérité, les choses comme ça, comme explique la Gemara, les choses comme ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, t'as des personnes qui partaient comme ça en voyage, monsieur.
Qui revenaient deux, trois ans.
Qui revenaient des années après.
Non,
et entre temps, l'autre, il s'est installé et tout. On arrive, on dit, monsieur, dehors. Quoi, dehors? J'ai acheté.
Là, on n'a pas besoin de transaction pour ça.
D'accord.
On n'a pas besoin de transaction pour ça.
Pourquoi?
Quand la personne part pendant 10 ans et que l'autre est sur le terrain pendant plus de, je sais plus combien de temps, 3 ans.
Non, c'est une erreur, excuse-moi. C'est pas ça, le cas. C'est qu'il faut réussir à prouver que l'autre était au courant que quelqu'un était dans son champ.
D'accord.
Et qu'il n'a rien dit. Bon, en général, c'est pas le cas quand tu pars dans un autre pays. Il n'y a pas de communication à l'époque. Impossible de savoir. D'accord. Bon. Ah, tu peux rien faire.
C'est pas parce que tu es de bonne foi que tu vas acquérir quelque chose. Que tu as mal acquis.
J'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il s'avère qu'il a acheté un terrain volé. C'est clair. Alors, la Mishnah nous donne deux solutions.
Donc, c'est l'acheteur.
D'accord. Les deux. Soit l'un, soit l'autre. Il y a de l'argent qui a été payé. Il y a une transaction. Donc soit on valide la transaction et tu me donnes l'argent, soit on valide pas, tu rends l'argent. Un des deux. Mais il y a une transaction ici. Alors, Immakat Mezinaï. Si les voleurs, d'accord, donc les deuxièmes voleurs, c'est ce qu'on appelle une Makat Medina. Makat Medina, ça veut dire que ils ont pas volé seulement le champ du voleur. Ils sont partis chercher tous les champs. Et donc c'est ce qu'on appelle littéralement Makat Medina, ça veut dire une clé du pays. Ça a touché tout le monde. Dans ce cas-là, Omerlo, dans ce cas-là, le voleur, il lui dit, écoute, Arechelcha lefanecha, il lui dit, c'est vrai qu'on m'a volé à moi le champ, mais on te l'aurait volé à toi aussi, puisqu'on a volé tous les champs à côté. Donc il dit, tu récupères ton champ, on va le récupérer directement chez les voleurs. Moi, c'est comme si j'ai jamais volé. Ce qui est logique. Donc là, il lui dit, moi, j'ai rien fait finalement, j'ai pas volé. Alors tu veux récupérer ton champ, bah, tu vas voir les vrais voleurs. Et la preuve, c'est qu'ils sont pas partis chercher un voleur. C'est pas un truc, la mafia, ils sont partis chercher les voleurs. Ils ont fait tout le monde, alors tu, Arechelcha lefanecha, je suis désolé, je peux rien faire. Mais par contre, Imechamat Agazlan, si c'était un règlement de compte entre voleurs, et que la raison pour laquelle ce champ a été récupéré par les deuxièmes voleurs, c'est parce que il y avait un premier voleur. Tu sais, des fois il y a des règlements de compte comme tu m'as volé, je te revole, etc. Là, dans ce cas-là, Chayav l'amidlo sadacher. Même si c'est une situation dans laquelle on n'a pas la possibilité de rendre le terrain, alors explique la Gemara par exemple, dans quel cas on n'a pas la possibilité de rendre le terrain, si par exemple le deuxième voleur c'est le gouvernement. Le gouvernement, personne ne peut rien leur dire. Je peux rien dire, qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu peux sauter en l'air, ça changera rien. Dans ce cas-là, comme on peut pas attaquer le gouvernement, on va attaquer le premier voleur. Donc si le premier voleur arrive à prouver que tous les champs de la contrée ont été volés, ont été récupérés par le gouvernement sans payer en contrepartie, il dit écoute, c'est vrai qu'on m'a volé, mais on t'aurait volé à toi aussi. Et si par contre, il arrive à prouver que c'est un règlement de compte et que, quelque part, le gouvernement volait seulement les voleurs, je sais pas, ça peut arriver comme ça, des gens qui volent les voleurs. C'est pour avoir la conscience tranquille, tu vois. J'ai volé, mais j'ai volé un voleur.
Les territoires dans la drogue, ouais. Et tout ça, mais
ça se passe comme ça dans le... Ils volent des voleurs, tu vois. Bah,
bien sûr.
Conscience tranquille.
Le règlement de compte et tout, pour définir les territoires de chacun.
De là sur le proverbe, à Gonève, la grève.
Pas tour. À Valassour, attention, bien sûr. Je traduis. Celui qui vole d'un voleur, il est exempté. Il est quitte, mais c'est interdit. Ah, parce qu'après, il y a des gens qui disent, oui, le gouvernement, c'est des voleurs, alors moi, je leur vole, alors.
On va des bois, tu vois.
Robin des Bois, c'est pas la même chose.
Si Robin des Bois, c'est
pas la même chose, il voulait défendre.
Non, les riches. Pas des voleurs.
C'est vrai que c'est assourd. C'est assourd quand même, hein. Voler les riches pour donner aux pauvres. Alors, Chayev Lamidlo Sadeh Acheret, il a l'obligation de lui donner un autre champ. Shtafan Nahar, Omerlo Areshelar Lefanecha. Troisième cas.
Gazlan.
Où t'as vu Gazlan?
Non,
j'ai entendu Gozlan.
Ah, Gazlan. Je pense pas que c'est un rapport avec Gozlan.
C'est les voleurs.
Shtafa, Chazachalov. Shtafanahar. C'est une grande famille. Shtafanahar. Si maintenant, le fleuve, donc, a... Qu'on appelle ça, a...
Inondé
le champ. Et donc, bien sûr, il a inondé de manière à ce que ça va prendre des années avant de pouvoir exploiter ce champ. Là, pareil, le voleur va se défendre, il va se dire, écoute, que je sois là ou que je sois pas là, de toute façon, ton champ, il aurait été touché. Donc, je paye. Et donc, dans ce cas-là, Omer Lo, il lui dit, dans les termes de la Mishnah, Are Shelcha Lefanecha, voici ton champ, le voilà. On prend-le. Ben, il est là, ton champ, vas-y, on prend-le.
En l'état.
D'accord? En l'état. Ah, mais, il dit, écoute, de toutes les façons, ça te sera arrivé à toi, comme à moi. Ça, c'est pour la Mishnah. On continue, c'est une Mishnah qui est assez facile. Dans la Gemara, on développe plus de cas autour du vol, mais bon, là, dans la Mishnah, c'est assez facile.
Juste un point, peut-être, ouais. Accessoire, mais, qui me semble important. Là, quand la Mishnah parle du gouvernement, et traite le gouvernement comme un voleur.
La Mishnah n'a pas dit gouvernement, elle a dit Anassim. Enfin, Messikim. Messikim, c'est des gens qui venaient pour récupérer des terrains sans rien payer.
Mais c'est pas la première
pour
fois.
Pour exproprier. Mishnah...
D'accord, mais ça, c'est le gouvernement. On parle d'un gouvernement juif. À l'époque, c'était comme ça.
Pas forcément, non. Non, c'est le gouvernement qui venait, qui renvoyait des gens de leur champ et qui payait pas. À l'époque de la Mishnah, ouais. Non, mais c'était pas forcément. C'est un concept, on parle d'un concept, on parle pas forcément d'un gouvernement particulier.
D'accord.
Si, c'était sur l'Empire romain,
peut-être. Oui. Peut-être ça existait en Israël, hein. C'est possible.
Non, mais l'époque de Mishnah, c'est Rome.
Peut-être ça existait en Israël. En tout cas, c'est un concept qui existait.
Rome, non, seulement ça marche.
Non, aujourd'hui, on sait que le gouvernement peut exproprier. Peut exproprier pour, par exemple, pour faire une ligne de train, rien de dommagement.
C'est pas là.
On ne trouve pas comme ça. Mishnah Bab. Agozel et Travero, celui qui a volé son ami. Alors, j'aime beaucoup la Mishnah parce qu'à chaque fois, on parle de son ami. Tu vois, il a volé son ami. Celui qui a volé son ami, Oshelava et Menou, ou qui lui a emprunté de l'argent, Osheif Kidlo, ou bien il lui a donné quelque chose à garder en dépôt. Donc c'est quoi le point commun qu'il y a entre ces trois cas? C'est que il y a eu une sorte de transaction. C'est-à-dire soit il a volé quelque chose et donc il doit rendre un objet, soit il a emprunté donc il doit rendre de l'argent, ou soit il a reçu quelque chose à garder en dépôt et il doit le rendre. Bon, jusqu'ici tout va bien, c'est normal. Le problème, c'est que j'ai envie de rendre l'objet pas au même endroit où je l'ai pris. Par exemple, l'exemple de la Mishnah, j'ai récupéré, la personne a emprunté de l'argent Bayishuv, ça veut dire dans la ville, dans un endroit habité, et il a envie de rendre l'argent dans le désert. D'accord? Et là, donc, et le propriétaire ne veut pas dire, non, moi, tu me le rends pas ici. Vous savez, des fois, vous voulez rendre l'argent, il dit, non, moi, tu sais pas ici, tu me ramènes au même endroit où je l'ai donné. Est-ce qu'il a le droit à la Hikma d'imposer ça? D'imposer qu'on lui rende l'objet au même endroit? Alors, la Mishnah va nous répondre que non. J'ai pas le droit d'imposer qu'on me rende l'objet au même endroit où je l'ai donné. Par exemple, j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un. Il n'a pas le droit de m'imposer que je lui rende l'argent dans un endroit particulier. Par contre, il a le droit de m'imposer de lui rendre l'argent dans le même type d'endroit. Je m'explique. Par exemple, si c'était dans une ville, c'était dans la ville, je dois lui rendre dans la ville. Pas forcément au même endroit où je l'ai emprunté. Mais je peux pas lui rendre l'argent dans le désert. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre la ville et le désert? Qu'est-ce qu'on avait à l'époque dans le désert? Eh bien, un danger. D'accord? Pas seulement ça. C'est que dans le désert, on a même, mis à part le danger, dans le chemin, on n'a pas envie de se trimballer avec beaucoup d'argent. Il dit, écoute, quand tu me donnes dans la ville, je rentre chez moi, je le range, etc. Voilà, ben je vais faire avec. Et ça, c'est, quand on réfléchit, c'est des cas qui arrivent souvent, ça. C'est-à-dire, on te rend quelque chose, mais au mauvais moment. Tu dis, mais je peux pas le prendre maintenant. J'ai pas de quoi le prendre maintenant. D'accord? Ben, j'ai le droit d'imposer. Je dis, désolé, je peux pas le prendre maintenant. On peut rien me dire. Donc, Agozel et Travero, Oshelava et Menou, celui qui a volé son ami, ou bien qui lui a emprunté, Osheif Kidlo, ou bien qui lui a donné à garder un dépôt, Pikadon, Bayishuv, Loya Khazirlo, Bamidbar. Si ça s'est passé, Bayishuv, hein, le mot Yishuv, c'est comme Yoshev. Yoshev en hébreu, ça veut dire quoi? C'est dans un endroit installé, dans un endroit posé, c'est dans une ville, dans un village, dans un endroit où on habite. Loya Khazirlo, Bamidbar, il n'a pas le droit de lui rendre Bamidbar dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, j'ai pas envie de me trimballer avec dans le désert. Almenat la tset bamidbar, yachazir lo bamidbar. D'accord? Maintenant, si, quand il a emprunté de l'argent, il lui a dit, à condition que je prenne cet argent et je vais aller avec ça dans le désert. Qu'après un jour, son ami, il le rencontre dans le désert. Il dit, ah, tiens, c'est quoi, j'ai de l'argent pour toi. Il dit, ah, non, moi, tu me le rends dans l'endroit où j'habite. Là, dans ce cas-là, étant donné qu'il avait dit explicitement qu'il avait besoin de cet argent pour aller dans le désert, et le droit de le rendre l'argent dans le désert. Bon. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un cas moderne. Comment on peut moderniser ce cas? Non, mais c'est vrai, des choses que des fois on nous rend, mais c'est pas le bon moment.
Devant ton Israël, il y a deux personnes au guichet, il y en a un qui dit, tu me dois 10 000 euros. Il dit, écoute, je viens faire mes remises, je les donnerai plus tard. Et soudain, il y a un braquage. Et que personne ne bouge, il se retourne, il dit, tiens, mais voilà, c'est dit.
Ah, je m'attendais à un autre cas. un qui donne 10 000 euros à l'autre, et qu'il attend qu'il est au bureau des impôts, il lui dit, tiens, je te donne 10 000 euros, il se met à lui donner en espèce. Non, mais un cas moderne, un cas quand même qui nous concerne.
J'aime bien celui du braquage, parce que...
C'est pas l'autre cas hein? C'est des cas à bracadabran qu'ils trouvent toujours.
Non,
Oui? Tu peux demander? Alors moi j'ai pensé à un cas, écoutez bien le cas que j'ai pensé. Il y a des gens des fois qui n'ont pas envie de dire à leur femme l'argent qu'ils ont. On est d'accord? Ils prêtent de l'argent. Non mais attendez, bon, Khas-e-Shalom, je suis pas dans ce cas. Mais... Non, c'est clair. Non mais attendez, écoutez bien. Par exemple, il y a des gens des fois qui donnent un don et qui disent ne dis pas à ma femme. Ou qui ont, ou,
tu vois, ça n'a rien à voir.
Non, attendez deux secondes. Écoute, j'ai vu le contraire aussi, hein, en passant.
Moi aussi, j'ai...
D'accord? J'ai vu le contraire.
Dis-tu à ma femme.
Non, une femme. Non,
la femme c'est les femmes qui donnent l'argent, et j'ai lu même une réponse à la RIC, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Une femme qui donne l'argent sans l'accord de son mari, c'est bon, c'est pas simple. Alors, quoi qu'il en soit, écoutez bien ce cas. Il prête de l'argent à quelqu'un. Reuven prête de l'argent à son ami Shimon. D'accord? Ils sont. Un jour, Shimon rentre chez lui à la maison. Donc il vient chez Reuven, il y a sa femme, il y a des enfants, etc. Il dit, ah, tu sais, pour les 10 000 euros que tu m'as prêté, les voilà. Et ça fait qu'il sort, il dit, mais quels 10 000 euros, de quoi tu parles? L'autre, il est grillé, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait?
Il refuse. Sauf que je t'ai pas donné.
Si elle l'a jamais, moi, tu m'as jamais donné 10 000 euros. Devant témoins et tout, jamais tu m'as donné 10 000 euros.
Moi, 10 000 euros. Devant sa femme et devant sa
femme. Il a le droit, ben oui, il a le droit, parce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dira après? Il lui dira à moi, il dit, écoute. Je t'ai donné discret, tu me rends discret. Hein, pas devant tout le monde. C'est ça, vous voyez comment on peut
oui,
couler ce cas.
Sauf que là, ça y est, sa dette, elle est effacée.
Ah non, elle est pas effacée.
Parce qu'il a dit,
je t'ai obligé. Il m'était bête ou quoi, dis-moi.
Une dette s'efface au bout de 7 ans ou 10 ans. Jamais.
Aujourd'hui, non. Ah. Ouais. Normalement, quand on arrive à la Shemitah.
Au bout de 7 ans, c'est pas ça.
Normalement, au bout de 7 ans, oui. Mais on a modifié ça, on a supprimé ça. Parce qu'après, les gens ne prêtaient plus. Almenat, la sève, il y a Khazorob, Bamidbar. Ok. Prousboul. Allez, on fait une dernière Mishnah et on s'arrête. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Sioum. A Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, alors c'est un cas sympathique ça, c'est un voleur qui va faire Teshuva. A Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, Gezaltira, je t'ai volé. D'accord? C'est pas rendu compte, mais je t'ai volé. Il vitani, ou bien, tu m'as prêté de l'argent. Itzkata itzli, tu m'as donné quelque chose à garder en dépôt. Mais Eniyodea, je ne sais pas, Ime Khezartilach, Imlo Khezartilach. C'est-à-dire, je me rappelle que je t'ai volé, mais je ne me rappelle pas si je t'ai rendu. Je me rappelle que je t'ai emprunté, mais je ne me rappelle pas si je t'ai rendu. Je me rappelle que tu m'as donné quelque chose à garder, mais je ne me rappelle pas si je l'ai rendu. Et l'autre, bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, tu ne me l'as pas rendu. Alors, je vais lui dire, mais attends, prouve-le que je ne t'ai pas rendu. Là, nous dit la Mishnah, étant donné que j'ai déjà commencé à avouer, et que j'ai dit, que je me rappelle que je t'ai emprunté, c'est à moi de prouver que je t'ai rendu. Ça veut dire comme ça. Si je n'avais pas dit, je t'ai emprunté, et que quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, tu sais, tu m'as emprunté de l'argent.
Prouve que.
D'accord? Là, on dit, prouve-le-moi. T'as prouvé? T'as pas prouvé, dans ce cas-là, on fait rien. Mais là, comme il est ce qu'on appelle, dans les mots de la Gemara, modé bemiktsat, ça veut dire qu'il y a un aveu partiel, parce que de lui-même, il est venu, il a dit, je t'ai volé, je t'ai emprunté.
Son ami, hein. Je dis pas, ceux qui sont pas ses amis.
Toujours
non,
son ami.
Non, mais l'ami, ça veut dire n'importe
quoi. Ah, là, on a... Ouais, l'ami.
Ensemble.
Ton frère.
C'est toujours l'ami. Mon ami.
Même un frère, c'est en train de l'argent.
La mafia, mon ami.
Enrico.
Même frère. Prendre l'argent à son frère, on doit faire un papier.
Toujours.
Même à son frère.
Toujours, ouais. Les Rachamim m'ont imposé. C'est pas une obligation, même aujourd'hui. Les Rachamim m'ont imposé, ils ont fortement conseillé. Chaque fois qu'on emprunte de l'argent, on fait un petit papier. Toujours. Parce que dès que c'est l'argent... En tout cas, moi, je le fais toujours. Quand j'emprunte ou je prête, toujours un petit papier.
Devant témoin ou sans témoin? Devant un témoin ou devant sans témoin?
Non, un témoin, c'est pas obligé. Mais au moins, un petit papier.
Tu prêtes jamais à ta femme,
Olivier. Ça revient
pas.
Tu prêtes pas.
Je vais pas prêter.
T'as fait des papiers.
Bon, ben, je sais pas si tu voyais un conjoint.
S'il y a une écriture de banque, c'est le papier. Quand les Rachamim parlent.
Oui, oui, il y a une trace. Oui, c'est un virement par exemple, c'est bon. Oui.
C'est la trace qui manque.
Ça fait quelque chose.
Oui, mais bon, c'est pas suffisant un virement. Hein,
c'est la trace.
Il faut. Oui, mais rien ne dit que c'est un prêt.
C'est-à-dire, toi, moi je t'ai prêté de l'argent.
Moi je t'ai prêté, tu m'as rendu.
Avec un
bon, mais c'est un peu quand même. Bon, c'est déjà un début de preuve.
devait de l'argent.
Alors, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Chayav l'Eshalem. Dans ce cas-là, il a l'obligation de rembourser. Alors, je vais vous donner le terme halachique qui explique la Gemara pour expliquer comment ça marche. On a ce qu'on appelle un safek et on a ce qu'on appelle un vadaï. Vadaï, ça veut dire c'est ce qui est sûr. Safek, c'est ce qui est un doute. Ici, qu'est-ce qui est sûr? C'est sûr qu'il y a eu un vol. C'est sûr qu'il y a eu un emprunt. C'est sûr qu'il y a eu un dépôt. Qu'est-ce qui est un doute? C'est quoi le doute? Le doute, c'est est-ce que cet emprunt a été remboursé, etc. Bon. Alors, on a un principe que la Gemara nous dit, qui est extraordinaire, qui dit que « en safek moti mi devadai ». Un doute ne peut pas enlever une certitude. Voilà la logique que la Gemara utilise. C'est quoi la certitude? C'est qu'il y a eu un prêt. Donc, il faut avoir une certitude qu'il a été remboursé. Tant que tu n'as pas la certitude qu'il a été remboursé, un doute, si peut-être lui, peut-être non, ne peut pas enlever une certitude. Donc, avec ça, on peut pousser très très loin ce principe. Dans les mots de la Gemara, c'est « en safek moti mi devadai ». Un doute ne peut pas enlever une certitude. Voilà. Vadai, c'est sûr. Ça fait que c'est un doute. Aval, mais si maintenant cette personne-là lui dit, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'avec ça, on va comprendre la suite de la Mishnah. Ima Marlo, si je viens voir mon ami, je lui dis, tu sais, Emiyodeim Gezaltira, je ne me rappelle pas si je t'ai volé. Là, dans ce cas-là, c'est un doute. Ou bien, Imilvitani dit, j'ai un doute, je ne me rappelle plus, est-ce que je t'ai emprunté de l'argent? Pas, je me rappelle pas, je sais que je t'ai emprunté, mais je ne me rappelle pas si je t'ai rendu. Non, je ne me rappelle pas si je t'ai emprunté. Et l'autre, bien sûr, il était sur l'occasion, il dit, oui, tu m'as emprunté, tu m'as pas rendu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est doute contre doute. Parce que, il y a un doute, est-ce que il y a eu un emprunt ou pas? Et de l'autre côté, il y a un doute, est-ce qu'il a été remboursé ou pas? Mais donc, doute contre doute est égal à... Oui, d'accord, mais,
pas de doute,
mais l'autre, il n'a pas de preuve.
Il te dit,
J'ai compris, mais l'autre n'a pas de preuve.
Ouais.
Là, on va analyser les faits. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans les faits? On a un doute. Moi, je dis, je me rappelle plus si je t'ai emprunté ou pas. Donc, il y a un doute. D'accord? De l'autre côté, je dis, je me rappelle pas est-ce que je t'ai remboursé ou pas. Donc, il y a un doute. Doute contre doute est égal à match nul. Donc, c'est zéro. C'est comme si il y a eu zéro preuve. C'est pour ça que, dans tous ces cas-là, pas tout, mais les chalem, ils remboursent pas.
Il rembourse pas.
Il rembourse pas. Non. Il dit à toi d'amener une preuve.
Il y a pas d'aveu.
Et si jamais il y a quand même un début d'aveu. Mais, il y a un début d'aveu. Mais le problème, c'est que, c'est un doute contre un doute. Ça veut dire, autant on a un doute si on a emprunté, autant on a un doute si c'était remboursé. Donc, c'est zéro.
Ça veut... La personne de rembourser une partie. Elle te rembourse une partie, après elle dit bon, le reste on va...
Ah, le fait de rembourser une partie, ça veut dire que tu avoues que t'as pas remboursé. C'est un aveu. C'est fini. Modé Bemiktat.
Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle l'aveu partiel. Ça veut dire, par exemple, je vois une personne, je dis tu me dois 1000 euros. Il me dit non, je dois que 500, les voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il rembourse 500 et il doit jurer qu'il doit pas le restant.
Ça, c'est la non, mais s'il reconnaît qu'il doit encore 500, il ne rembourse pas. Il rembourse la moitié.
Si
il reconnaît, il dit voilà, je vais en prendre un exemple.
Ouais.
Par exemple, je vais en prendre 5000 euros, je te rembourse 2500 euros.
Mais je te rembourserai après le reste.
Et non, le problème, c'est que quand on prête de l'argent, on ne marque pas quand on doit rembourser. Il faut faire un échéancier.
Ah, d'accord,
il y en a plein qui se vont avoir comme ça.
Ouais.
Après, même 10-15 ans après, il m'a dit, on n'a pas marqué quand je te rembourse, donc je te rembourse après.
La cimetière, il va rendre.
Il joue avec les
amis.
Il y a autant dire qu'il a volé. Non, mais autant dire qu'il a volé, c'est plus simple.
C'est bon, je vais te donner.
À l'époque des francs, moi. C'est à l'époque des francs.
Vous savez, tu sais ce que tu as une partie comme ça. Tu lui dis, écoute. Tu lui dis, écoute. Non, tu lui dis, écoute, c'est quoi? Garde-le l'argent. Vas-y, c'est comme pour moi, c'est comme si tu l'as volé. Dieu me le rendra.
J'ai un cas un peu différent, c'est qu'il y a une dette qui est,
gonflé,
connue,
hein.
Qui est connue à cette date. Et par exemple, ça m'est arrivé encore, j'ai quelqu'un qui me doit de l'argent, et je lui demande pas de me rembourser.
Ouais. Et il ne te rembourse pas.
Et il estime en fait que comme je ne lui demande pas, et que j'en ai pas besoin soi-disant, donc il estime qu'il n'est pas dû de me rembourser.
Exactement.
Alors, le temps est passé, mais il me doit toujours cette somme.
En francs ou en euros?
En euros.
Ça fait combien d'années?
Demande-lui.
Au moins 6 ans.
Demande-lui.
Donc il estime en fait que je lui dois rien.
Et pourquoi
parce
je lui
demande pas demandé à l'époque où c'était nécessaire.
Moi je prends 15% pour le recouvrement.
Pourquoi je lui demande pas? Tu veux qu'on envoie des...
Non. Je
peux t'en trouver un client.
Il y a plein de cas comme ça.
Et c'est un cas réel. La dette est due, mais il estime que tu ne dois pas me rembourser.
Il compte te la rendre, mais il n'a pas encore de quoi.
Non, il estime que j'ai un jour où tu n'as pas besoin.
Je n'ai pas sollicité le remboursement. Si tu ne sollicites pas le remboursement, qu'est-ce que...
C'est des cas compliqués. Oui.
Le problème, c'est quand on prête de l'argent.
C'est sûr qu'elle est due, la dette.
Ouais. Il faut faire un échéancier. Tranquille comme ça.
C'est des cas compliqués, ça.
Bonjour.
Mais sachez au moins que la Gemara, au début de la Gemara Bava Metzia, la Gemara, elle nous donne un principe intéressant. Elle dit que « En Adam Meispana Vifne Baal Chovo ». Et normalement, une personne n'est pas effrontée devant une personne qui lui a prêté de l'argent. Normalement.
Il
n'aura pas l'effronterie de lui dire « je te connais pas, tu m'as jamais prêté, etc. » Et que même si éventuellement, des fois, il dira « je te dois rien », c'est parce qu'il a besoin de délai. Ah. Mais bon, là, dans ton cas, tu l'as rien demandé.
Il y a des cas plus vicieux que ça.
Oui, ah oui, toujours. Hein.
Alors, il a pas rendu un service, l'argent qu'il m'a donné, c'est pour... ça compense le service que je t'avais rendu.
Ah oui, il y a aussi,
il faut être remboursé, Dieu va te faire le... Bah, fallait me le dire que le service était payant.
Bien sûr, c'est...
Quand tu as compris,
c'est
évident.
Non, ça vaut rien. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un papier. Non, mais sérieux, même un petit papier. Moi, des fois, j'ai pas papier sur moi, je fais même sur à l'arrière un ticket de caisse. Je vais dire, voilà, tiens, voilà.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent, et il me dit, ok, je te rembourse, mais tu viens manger au restaurant quand tu veux.
Ouais.
En
nature.
Non, ouais. Alors, mais est-ce que c'est équitable?
Pendant combien d'années il faut gagner
l'argent? À vie.
Manger une cinquantaine.
Quand c'est du papier, quand c'est écrit sur un papier, je dois te rendre telle date, il y a une trace.
Vous avez besoin d'argent, moi d'ailleurs. Et vous, Michel?
Bon, allez.